France Musique. Les grands entretiens, Laurent Villarem.
Je m'appelle Marc-André Dalbavy, je suis compositeur et donc j'écris majoritairement pour les formations symphoniques, les formations de musique de chambre et des opéras actuellement.
Début des années 80, à Paris, Marc-André Dalbavy rencontre les compositeurs de musique spectrale comme Tristan Muraille et Gérard Griset.
Gérard Griset était tout à fait un homme de son temps, c'est-à-dire un jeune homme ayant vécu mai 68. Il était habillé d'ailleurs à l'époque avec d'événements qui faisaient beaucoup penser au mouvement hippie. Vous voyez, c'était un peu la période. Il y avait des cheveux longs. Enfin, vous voyez, c'était.
Et vous-même ?
Non. Nous, on était déjà des jeunes hommes des années 80. Donc assez différents. Mais ça nous fascinait parce qu'on avait une sorte de grand frère comme ça qui.
Un peu baba cool.
Un peu baba cool, voilà. Alors, ça évolue ensuite, il a beaucoup évolué ensuite, mais c'était quelqu'un de très, très sympathique, très gentil. Moi, j'ai beaucoup aimé Gérard Griset. Enfin, on est devenus amis, évidemment. Non, on savait pas qu'il allait effectivement devenir quelqu'un d'important. Nous, ce qui nous intéressait, c'est ce qu'il faisait. Voilà.
Si on écoute votre pièce, votre première pièce qui date de 81, Les Paradis Mécaniques, là vous obéissez à une doctrine presque, à la doctrine spectrale.
Oui, ben vous voyez, c'est la première pièce que j'ai gardée. Oui, j'étais complètement là-dedans, effectivement. J'étais fasciné par. J'ai eu deux personnes qui ont été importantes pour moi. J'ai eu mon professeur au conservatoire qui était Claude Baliff et Gérard Griset et Tristan Murat. Enfin, trois personnes, on peut dire. J'étais vraiment un parfait épigone du spectralisme de l'époque, c'est-à-dire fin des années 70. Ouais.
Et ce qui vous déplaît maintenant dans la musique spectrale, dans cette œuvre, c'est quoi, quand vous l'écoutez ?
Ah, je ne l'ai pas écouté depuis longtemps. Je crois que je l'ai redirigé il y a quelques années aux États-Unis. Oh, je ne sais pas, c'est une œuvre avec beaucoup de maladresse, comme toutes les œuvres de jeunesse. Alors effectivement, une œuvre de jeunesse comme ça a tous les défauts d'une œuvre écrite par un très très jeune compositeur.
Mais très tôt, dans votre musique, les commentateurs ont repéré, ont vu qu'il y avait beaucoup de plaisir chez vous. Il y avait une sorte de beauté sonore, d'hédonisme.
Oui, enfin, j'aime la musique. Alors, est-ce que aimer la musique et hédoniste, c'est pas sûr. On peut aimer la musique et être épicurien, ou être. On peut avoir d'autres champs que l'hédonisme. Oui, je suis musicien, j'aime la musique, donc j'ai envie d'écrire de la musique. J'ai envie d'y prendre plaisir, d'y chercher des émotions. Voilà, je le résumerai à ça. Mais ça n'est pas une vision hédoniste consciente. Peut-être aussi c'est un air du temps culturel, parce que j'ai été élevé beaucoup à travers Debussy, à travers Ravel, à travers Messiaen. Adolescent, donc il y a quelque chose qui reste de cet héritage.
Thank you. Marc-André d'Albavie, vous voulez tout, alors vous aviez tout. Vous étiez à la fois parmi les spectros et en même temps, vous êtes un peu comme... vous avez appartenu après à l'IRCAM. Est-ce que vous êtes comme un transfuge de foot, comme Pierre Boulez vous a pris de l'autre équipe?
Alors, je n'ai pas du tout l'âme d'un mercenaire. Non. Pour moi, Boulez n'était pas un compositeur qui m'intéressait. C'est vrai que à l'époque où j'étais au conservatoire, où je sortais du conservatoire, j'étais surtout intéressé par Ligeti et par la musique spectrale, aussi par la musique américaine. Alors peut-être on peut trouver là une quelconque relation avec ma double nationalité. J'étais très intéressé par des gens comme Steve Reich, mais qui ont un point commun avec Ligeti et avec les musiques spectrales, qui est l'idée du processus, donc c'est-à-dire d'une musique répétitive qui se transforme. Cette idée de transformation, de métamorphose, à travers un flux de musique, est commun aux gens qui m'intéressaient. Donc Boulez n'était pas du tout dans ce monde-là. Donc j'avais des amis à l'époque qui étaient très boulésiens, et moi pas du tout, j'étais pas du tout boulésien. Donc la rencontre avec Boulez s'est faite par Boulez lui-même. C'est lui-même qui est venu vers moi, qui a voulu que j'intègre l'IRCAM, voilà. Mais j'y pensais pas du tout. À l'époque, j'étais même la dimension électronique de la musique spectrale n'était pas une dimension qui m'intéressait. Même si l'itinéraire a été fondé autour pas seulement de la musique spectrale, mais autour de l'idée de mélanger des instruments classiques avec des instruments électroniques venant du rock. Et d'ailleurs. C'était tout à fait la génération de Tristan Murail, de Gérard Grisset, de Michel Lavinas. Ils étaient très intéressés par ce qui se faisait comme instrument électronique, mais un instrument de scène. Alors que l'IRCAM n'était pas du tout dans l'exploration de ces instruments, des instruments venant de la pop. Et à Radio France, il y avait le groupe de recherche musicale qui était héritier de toute la musique concrète, donc de Pierre Schaeffer, de tout ce groupe-là, et eux non plus n'étaient pas dans cette dimension. C'était vraiment l'itinéraire qui avait voulu importer dans un ensemble d'instruments classiques des instruments venant de la pop.
Et pourtant, vous avez tenté l'expérience avec Boulez.
J'ai tenté convaincre. L'expérience avec Boulez. J'ai amené la pop, j'ai amené les instruments dans la première pièce que j'ai réalisée à l'IRCAM, qui était en fait avec des instruments de l'itinéraire. Absolument.
C'était quels instruments ?
Il y avait des synthétiseurs de l'époque, c'est des Moog ou des choses comme ça. Je crois que j'ai même utilisé l'orgue électronique personnel de Murail, qui pouvait se désaccorder, on pouvait désaccorder les touches. Chaque touche pouvait se désaccorder, c'est un orgue intéressant pour ce que je cherchais à l'époque. Et effectivement, quand je suis rentré à l'IRCAM, je suis rentré dans un autre monde qui était véritablement un monde d'électronique pure.
Boulez s'entendait-il avec Murail et Grisset ? Il vous a pris car c'était une manière d'envoyer un message à eux ? Ou comment ça se passait en fait ? Pourquoi ça a toujours été chien et chat entre Grisset et Boulez ?
Mais je ne sais pas entre chien et chat parce que Boulez a beaucoup dirigé Grisset. Enfin, en tout cas, modulation, il l'a fait plusieurs fois et il appréciait cette œuvre. Moi, je crois que la connaissance que j'ai eue après de Pierre Boulez, enfin, pour moi, Boulez était un homme et un musicien beaucoup plus ouvert qu'on le pense. Il aimait des choses très très différentes et il n'était pas du tout dogmatique dans ses goûts. En tout cas, à l'âge où je l'ai connu. Effectivement, quand on lit sa littérature de jeune compositeur combattant, on va dire, militant et combattant, on a l'image d'un homme extrêmement idéologique, fermé, théocratique peut-être. Alors que moi, j'ai rencontré, au contraire, un homme incroyablement curieux, aimant beaucoup de choses différentes et très loin même de sa musique. Et il avait un très bon rapport avec Grisset. Ils n'étaient pas amis, évidemment. Enfin, Pierre Boulez était quelqu'un d'assez distancié, puis Griset aussi, donc tous les deux. Je pense que ça ne pouvait pas faire des grands amis de bistrot. Mais même Muraille, il s'entendait assez bien avec Muraille.
Donc c'est une construction historique.
Oui, j'ai jamais entendu d'animosité des uns ou des autres exprimée en tout cas. J'ai entendu de. Alors Muraille pouvait critiquer Boulez, mais comme je pouvais le faire, même en étant proche de Pierre, j'ai mis beaucoup de temps à être intéressé par sa musique. J'ai été intéressé après par sa musique, mais j'ai mis beaucoup de temps parce que c'était pas du tout la musique qui m'enthousiasmait à l'époque. Voilà, j'étais ailleurs.
Boulez a créé beaucoup d'œuvres de vous. Il a créé Diadème, notamment à New York en 88. Non. En tout cas, à Brooklyn, en tout cas, la création américaine.
Oui, absolument.
Après, il a créé Seuil en 91, je crois. Il a aussi créé Concertate al Suono. C'est une relation à long terme. Il vous est resté fidèle et vous lui êtes resté fidèle.
Oui. Alors oui, c'est une relation qui a duré assez longtemps, parce qu'on s'est rencontrés dans les années 80. Début des années 80 et jusqu'à sa mort. Donc on est resté toujours très proches, effectivement. C'est d'ailleurs... J'ai été le premier étonné, d'ailleurs, de cette relation avec lui, parce que, comme je vous le disais, j'étais pas du tout dans son univers. Beaucoup de mes amis étaient des Boulésiens convaincus et authentiques, alors que moi, pas du tout. J'étais presque une sorte de fils adoptif, quelque part. On a gardé un lien, il a beaucoup dirigé ma musique, beaucoup d'œuvres aussi, différentes, qu'il n'a pas créées, comme le concerto pour flûte, voilà, comme d'autres pièces qu'il a faites, merveilleusement, toujours. Ça a été, oui, une relation assez, assez forte. Il me montrait quelquefois ses partitions, les manuscrits, quand il venait de finir de les orchestrer, donc il me demandait mon avis, j'étais assez touché en même temps.
Vous étiez son professeur d'orchestration ?
Non, mais il voulait avoir mon avis, ce qui était très étonnant parce que il l'écoutait pas, je pense qu'il écoutait pas, mais j'aimais lire ses partitions, effectivement, j'avais plaisir à découvrir une œuvre qui n'était pas encore créée. Et avoir sa plume qui demandait une loupe souvent, pour tellement il écrivait petit. Voilà, donc il y a eu une...
Excusez-moi, et parfois vous le disiez quand il faisait des erreurs, vous le disiez ?
Oh, il faisait pas d'erreurs, Pierre faisait très peu d'erreurs, je dois dire. C'est toujours été très très bien orchestré. Enfin, ce que j'ai lu, évidemment. Bon, il a beaucoup remanié ses œuvres, donc je ne sais pas l'état des premières œuvres, comme Le Soleil des Eaux... l'état de l'orchestration de la première, je la connais pas, mais tout ce que j'ai lu, c'est toujours, c'est fait de main de maître, hein, évidemment.
France Musique, les grands entretiens de Marc-André Dalbavy.
Très étonnamment, Pierre ne faisait jamais de commentaires sur ma musique. C'est-à-dire que notre relation, dans cette relation, il n'a jamais voulu dire ce qu'il pensait de ce que j'écrivais. Ce qui est très étonnant. Il le dirigeait, on le travaillait, mais il ne donnait jamais son appréciation.
Ça vous frustrait ?
Non, parce que je la demandais pas non plus. Je dois dire que même au conservatoire, même mes professeurs, j'écoutais assez peu ce qu'ils disaient sur ma musique. Enfin, je l'écoutais, mais en fait, j'en faisais qu'à ma tête.
Encore donc, maintenant ?
Encore maintenant, oui.
Le soulier de satin, ça dure 6 heures, voilà.
Oui, ouais. Ce serait trop long d'écouter un cours critique sur le soulier de satin, donc déjà je le supporterais pas. Mais non, c'est vrai que j'ai très vite J'ai très vite été indépendant de ce côté-là. J'ai jamais, même mes professeurs conservatoires, j'ai jamais vraiment demandé à mes professeurs ce qu'ils pensaient de ce que j'écrivais. Je voulais apprendre d'eux, mais quelque part, j'avais envie de faire ce que mon instinct. Je voulais me laisser guider par mon instinct et quelque part, si je faisais des erreurs, eh bien, c'était des erreurs qui étaient moi-même. Donc, je me disais, c'est des erreurs qu'il faut que je fasse.
Est-ce qu'il y a l'idée chez vous que composer, ça vous met dans une bulle, dans votre propre monde ?
Oui. Pour moi, composer, c'est vraiment une quête intérieure. Ça, c'est très clair. Même si c'est fait à partir d'une exploration intense de tout ce qui m'entoure. Mais in fine, le moment où l'œuvre émerge, c'est-à-dire où l'écriture n'est plus qu'un procédé, mais devient de la musique, c'est-à-dire qu'elle se fusionne, qu'elle crée un émerveillement, on peut dire. Ce moment-là, c'est une quête intérieure et donc effectivement une bulle. J'aime être isolé, j'aime être en moi-même et j'ai besoin d'entendre intérieurement, profondément, ce que j'écris. Je n'utilise même pas d'instrument, rien. J'écris sur table directement et je suis suffisamment critique de moi-même pour ne pas chercher celle des autres.
Boucler cette partie sur la musique spectrale, je voudrais évoquer avec vous Seuil, qui est vraiment une grande œuvre de 40 minutes, qui date de 91. Seuil, c'est un mot qui est important pour vous. C'est à la fois être là et pas là, ou tenter l'aventure, mais ne pas s'y enfermer.
Oui, et puis c'est aussi le moment où, alors plus prosaïquement par rapport à l'œuvre, c'est le moment où lorsque vous faites... Vous élaborez une musique continue, une musique répétitive qui se métamorphose. C'est le moment où, justement, la perception capte le seuil. C'est-à-dire, ce seuil, c'est le moment où l'image se transforme et devient une autre image. C'est comme si vous voyez deux visages. Le premier visage subir une transformation avec des ordinateurs, comme on le voit hein, dans certains films, et ce visage se transformer en un autre. Et dans ce monde totalement continu de la transformation, il y a un moment où il y a un seuil perceptif, où tout d'un coup, vous voyez l'autre visage. Et c'est ce moment-là qui, pour moi, a été fondateur de cette œuvre. L'idée d'explorer les moments où le seuil apparaît et où il y a une bascule.
Voilà. Ça se traduit notamment dans quel passage ?
Mais c'est dans tout seuil. C'est-à-dire que tous les éléments de seuil se transforment en permanence. Y compris d'ailleurs le poème, parce que j'ai écrit cette œuvre avec Guy Lelong. Et dans le poème, j'ai demandé à Guy Lelong de faire un poème sur des transformations continues. Et lui-même a travaillé sur une transformation continue, par exemple, des voyelles sifflantes vers les voyelles percussives. Simple, espace, sonore, qu'un seuil est lucide, en vouant son rôle au mot ou au souffle. La voix offre un jeu des plus fictifs qui, gagnant l'entente qu'on prône autour, intègre la parole qu'un degré ultime duplique. Donc on voit une transformation continue du poème, et il fonctionne comme l'œuvre musicale, comme l'œuvre sonore.
Thank you.
D'un autre côté, il y a aussi un seuil de perception. À quel moment on perçoit quelque chose, de la parole ou de la voix, dans seuil, l'orchestre se transforme en une voix. Donc on a un orchestre qui progressivement devient une voix, elle-même progressivement amenant une parole, sur à quel moment la parole émerge. Vous voyez, enfin, c'était vraiment la volonté d'explorer tout ça.
La musique spectrale est considérée comme une musique lente, et il y a le troisième mouvement où justement c'est une musique très rapide.
Bah oui, parce que pour moi, effectivement, le travail sur la vitesse est important. Pas la vitesse de jeu, mais la vitesse musicale. Et en fait, dans Seuil, il y a plusieurs. Il faut imaginer qu'on est face à une table de mixage et on a plusieurs potentiomètres. Et il y a plusieurs musiques, chaque potentiomètre est une musique différente, et on envoie, on va mixer, on va envoyer les musiques les unes après les autres, ou en même temps, ou certaines musiques vont revenir, vont repartir, etc. Tout seuil est construit là-dessus. Et donc, il y a effectivement dans le troisième mouvement un seuil qui est beaucoup plus rapide, qui correspond à un potentiomètre de musique rapide, mais c'est présent dans toute l'œuvre. C'est-à-dire que cette musique rapide, vous l'entendez à plusieurs moments de seuil. Elle réémerge, elle transforme quelquefois des flux lents en des flux rapides, etc. Donc voilà, c'est construit comme ça. En fait, c'est une polyphonie de musique. La pièce Seuil, contrairement aux pièces que je faisais avant, a été un très grand changement parce que j'ai découvert l'idée de la composition par mixage, en tant qu'acte de composition, pas de mixage de studio, mais ça vient de là, évidemment. Et donc j'ai commencé à superposer les musiques les unes par rapport aux autres. Technique que j'ai gardée jusqu'à présent.
Seuil de Marc-André Dalbavy par l'ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Boulez. Ainsi se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec Marc-André Dalbavy. Prise de son Pierre Henry, mixage Valérie Lavalard, attaché de production Flora Sternadel, une émission réalisée par Lionel Quentin. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.